Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Alice Ekman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réputée pour être l'une des meilleures sinologues d'aujourd'hui. Vous êtes responsable de l'Asie à l'European Institute for Security Studies et vous venez de sortir en librairie un nouveau livre intitulé « Dernier vol pour Pékin ». C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Alors, ce livre nous explique que la Chine est en train de se fermer à l'Occident. Alors, comment expliquez-vous la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden au G20 qui s'est soldée par des déclarations très apaisantes? Biden s'engageant à tout faire pour que la concurrence entre leurs deux pays ne devienne pas un conflit et Xi Jinping reconnaissant que le monde est assez grand pour les deux.
Oui, ces déclarations existent, mais il ne faut pas les surinterpréter parce qu'il faut maintenir des canaux de communication entre les deux premières puissances économiques mondiales. Joe Biden et Xi Jinping ne s'étaient pas rencontrés directement depuis que Joe Biden était président. Il y avait eu le sommet d'Anchorage en Alaska il y a maintenant déjà plus d'un an et les dialogues avaient été extrêmement tendus avec la Chine, n'hésitant pas à rappeler les nombreuses faiblesses perçues des États-Unis et le fait que finalement les États-Unis devaient d'abord balayer devant leur porte avant d'émettre toute critique vis-à-vis de la Chine. Et ce discours ne change pas du tout. Au contraire, et la rencontre du G20 a aussi donné lieu à des communiqués, notamment côté chinois, réaffirmant la position de la Chine sur Taïwan, mais aussi réaffirmant les divergences sur ce point, puisque Taïwan est le premier point de cristallisation entre Washington et Pékin. Pékin considère que les États-Unis n'ont vraiment rien à dire sur ce sujet qui est strictement intérieur. Et deuxième point de tension entre Pékin et Washington, c'est bien sûr la Russie et la guerre en Ukraine, puisque Pékin refuse de parler de guerre et maintient des relations commerciales énergétiques soutenues avec la Russie.
Vous constatez, Alice Ekman, un durcissement de la diplomatie chinoise depuis 2020, depuis la crise du Covid. Qu'est-ce que c'est que cette diplomatie des loups guerriers? Pourquoi les loups guerriers et quel est le but poursuivi?
Oui, alors les loups guerriers, c'est une expression qui est inspirée d'un titre d'un film chinois, Wolf Warrior, qui notamment défendait les Chinois présents à l'étranger lors de crises régionales. Une diplomatie offensive qui protège ses ressortissants, ce qui est finalement assez normal. Mais elle s'illustre très concrètement par une communication non diplomatique de diplomates sur les réseaux sociaux notamment. On a vu par exemple sur Twitter certains représentants du ministère des Affaires étrangères chinois, des diplomates, des ambassadeurs, des consuls, mais aussi porte-parole du ministère, traiter le Canada de laquais des États-Unis, parler de chiens errants du capitalisme. Ce sont des expressions maoïstes, bien sûr, mais qui sont revenues au goût du jour dans le cadre de cette diplomatie des loups guerriers. Et on revient toujours au premier point évoqué, c'est-à-dire il faut taper sur l'Occident. Et parce que la Chine considère que pendant trop longtemps, elle s'est fait, la Chine de Xi Jinping, bien sûr, hein, là je ne parle pas au nom de toute la population chinoise, il est impossible de synthétiser les tendances d'opinion qui doivent être certainement divergentes, mais ne s'expriment pas de manière publique compte tenu du contexte actuel. Mais la diplomatie chinoise, elle est très vocale, elle dit tout haut ce qu'elle pensait autrefois tout bas. C'est-à-dire autrefois, lorsqu'on échangeait avec des chercheurs ou des diplomates chinois, on avait l'impression, en substance, qu'ils considéraient que toutes les crises du monde, notamment ce qu'ils considéraient être les révolutions de couleur, ont été fomentées par les États-Unis et leurs laquais, leurs chiens errants, etc. Et que, et puis en substance, les services, la CIA, et que finalement, oui, les États-Unis sont l'ennemi numéro un du monde, qu'il faut combattre absolument. Par exemple, lorsqu'on parlait de Corée du Nord, voilà, dernier test, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais ils répondent aux provocations finalement américaine, en substance, je synthétise. Mais cela, on ne l'entendait pas publiquement au niveau officiel, c'était dans des conversations qui n'étaient pas aussi, en tout cas, formalisées noir sur blanc. Aujourd'hui, on note bien, par exemple, lors de la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères et conseiller d'État Wang Yi en mars dernier, il disait clairement que l'Indo-Pacifique, hein, ce concept et cette stratégie développée par les États-Unis, mais pas uniquement, par la France, l'Australie, l'Inde, le Canada, entre nombreux autres pays, ce concept était une nouvelle forme d'OTAN en Asie, OTAN est un terme perçu très négativement, un acronyme perçu très négativement à Pékin, une nouvelle forme d'auto-nazi qui était vouée à l'échec et qu'il, en substance, il fallait combattre. Donc on est vraiment dans une rivalité pas uniquement conceptuelle, mais une rivalité entre coalitions de pays qu'il faut prendre au sérieux parce que c'est le monde dans lequel nous vivons.
Mais la vision que vous venez de décrire, Alice Ekman, la vision qu'a Xi Jinping de l'Occident, c'est assez proche de la vision de Vladimir Poutine. Hein. L'Occident, ce sont des impérialistes, néocolonialistes, qui veulent faire la loi partout et sont résolus à renverser n'importe quel gouvernement s'opposant à eux. C'est ça la vision commune à ces deux dirigeants, au fond.
Oui, et la vision commune qui apparaît dans le communiqué conjoint signé le 4 février dernier, en marge du sommet, enfin de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, auquel Vladimir Poutine avait assisté. Ce qu'il ressort de ce communiqué, c'est aussi que les deux pays souhaitent travailler ensemble pour construire un nouvel ordre mondial. Et ça, c'est pas négligeable, parce que non seulement il s'oppose à la surreprésentation, surprésence de l'Occident, telle qu'il la considère être, mais il est temps aussi d'agir ensemble pour que la Chine, la Russie et d'autres pays aient davantage voix au chapitre. Alors bien sûr, c'est plus compliqué en réalité, la relation n'est pas parfaite entre les deux pays, et Pékin ne se réjouit pas d'avoir dû évacuer plus de 4 000 ressortissants chinois du territoire ukrainien, l'Ukraine qui était un partenaire économique et agricole de la Chine notamment. Mais lorsque l'on regarde la rivalité Chine-États-Unis, elle est tellement structurante et tellement clivante, et l'ennemi est tellement commun qu'il rapproche la Chine et la Russie aujourd'hui. Les deux pays ont conduit un certain nombre d'exercices militaires conjoints depuis 2014, en mer Méditerranée, en mer Baltique, mer de Chine du Sud, entre autres. Et les deux pays aussi continuent à coopérer, bien sûr, dans le domaine énergétique, puisque depuis juin, la Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole de la Chine. Et la Chine est disposée à exporter vers la Russie certains composants électroniques comme des semi-conducteurs de moyenne génération dans un contexte de tensions, de sanctions technologiques visant la Russie.
On fait une pause, Alice Ekman, et puis ensuite on s'intéressera à la politique intérieure de la Chine.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Et nous sommes avec Alice Ekman, qui est sinologue et qui publie « Dernier vol pour Pékin » aux éditions de l'Observatoire. Alors Alice, il y a un mois a eu lieu le 20e congrès du Parti communiste chinois qui a confirmé le rôle central de Xi Jinping. Mais qu'est-ce que la Chine a encore de communiste aujourd'hui? C'est une dictature avec un parti unique, mais qui a rompu depuis 30 ans avec tout ce qui caractérise le communisme, c'est-à-dire l'abolition de la propriété privée, la collectivisation des moyens de production, la disparition des classes sociales. Et c'est en rompant avec tout ça que ça lui a permis de devenir, en 30 ans, une grande puissance économique. Le prix à payer, c'était l'abandon du communisme, non ?
Vous avez raison, si on regarde les fondamentaux du communisme, la Chine n'a plus grand-chose à voir avec le communisme. Mais nous assistons à un renouveau idéologique qu'il faut prendre au sérieux. Xi Jinping fait référence au marxisme, c'est pas uniquement de la communication. Dans les faits, il a recadré l'économie ces dernières années, recadrage du secteur du divertissement, de l'éducation privée, des nouvelles technologies. Il a renforcé le poids des cellules d'État dans l'économie, notamment en renforçant donc cette présence des cellules dans les entreprises publiques, bien sûr, qui jouent un rôle central et majeur dans l'économie de la Chine aujourd'hui toujours, hein, mais aussi dans l'entreprise privée. Et du jour au lendemain, même si vous êtes un très grand patron d'une très florissante entreprise, du jour au lendemain, vous pouvez disparaître des écrans radars pour revenir avec des confessions forcées à la gloire du parti. Donc le capital ne vous abrite pas beaucoup en Chine aujourd'hui. Beaucoup de personnes d'ailleurs cherchent à trouver un passeport étranger ou une solution de secours pour héberger des capitaux, revendre certains appartements dans le cadre d'une crise immobilière importante. Bien sûr, ça considère uniquement une très faible partie de la population, mais pour vous dire qu'on n'est pas dans un système libéral tel qu'on l'entend, même moi j'ai du mal à parler de capitalisme d'État, une expression qui est souvent utilisée pour décrire le système économique en Chine, on s'en éloigne de plus en plus, parce que réellement, il y a à la fois un recadrage de l'économie, aussi des éléments, par exemple la restructuration du système de recrutement au sein du parti, avec une volonté de renforcer la présence de ce qui pouvait être autrefois appelés les prolétaires, les paysans, les ouvriers au sein du parti, pour pas que le parti soit finalement un parti de winners, de classe moyenne, moyenne émergente, consolidée. Au contraire, il faut que le parti reste fidèle à ses fondamentaux. Ça, c'est une phrase de Xi Jinping. Et au-delà du recadrage des acteurs économiques, il y a de plus en plus des appels à une évolution de la société de consommation. Parce que souvent, bien sûr, le constat que l'on fait, c'est arrêter la Chine d'inspiration marxiste alors que l'on voit des gratte-ciels à Shanghai, que Louis Vuitton, etc., fait encore des bons chiffres de vente. Certes, mais Xi Jinping, dans son discours du Congrès, donc il y a près d'un mois, son discours d'ouverture, a appelé à dénoncer le culte du profit, l'hédonisme et le nihilisme historique. Donc les deux premières expressions, culte du profit et l'hédonisme, appel indique qu'il va probablement recadrer les pratiques de consommation dans les prochaines années. Ça paraît fou, mais c'est vraiment ce qu'il annonce dans son discours.
Et les Chinois ont goûté à la société de consommation. Est-ce qu'on peut les en priver ? Ça risque d'être dur, non ?
Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a aussi, comme on en parlait auparavant, des Chinois, beaucoup, une partie de la population qui se pose des questions, d'autres qui cherchent à partir à l'étranger. Mais vous savez que partir à l'étranger aujourd'hui, c'est difficile parce qu'un grand nombre de passeports chinois n'ont pas été renouvelés dans un contexte de politique zéro Covid et qu'on est dans un système aujourd'hui de surveillance renforcée, surveillance humaine et surveillance technologique, car il ne faut pas voir cela vraiment comme un état totalitaire au sens vraiment strict du terme. Toutefois, la liberté de mouvement est de plus en plus difficile au sein même de la Chine et encore plus en dehors de Chine, dans un contexte de recadrage des déplacements et de cette politique zéro Covid qui est toujours en place et aucun signe d'ajustement aujourd'hui n'est à l'œuvre.
Alors justement, comment expliquez-vous cette stricte politique zéro Covid qui continue de confiner des millions de gens dans des conditions insupportables et qui cause de plus en plus d'insurrections, comme à Guangzhou par exemple.
Oui. Ce qui est étonnant, alors personne n'a l'explication définitive et complète. Xi Jinping avance des arguments sanitaires et médicaux. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de différence effectuée entre les variants aussi, que finalement le Covid est toujours perçu comme une menace mortelle, quelle que soit l'agressivité du variant en déploiement, si je puis dire. J'explique cela aussi, en tout cas le confinement de Shanghai, qui a été très strict en avril-mai, qui a surpris énormément de Shanghaïens, notamment chinois ou des expatriés qui étaient présents dans la ville, qui se disaient on ne pouvait pas confiner cette ville qui est de tendance plus libérale que Pékin et qui était traditionnellement plus éloignée donc des centres de décision, de la même manière compte tenu de son poids économique. Et non, Pékin a mis en place une politique très stricte qui a eu des conséquences économiques, pas uniquement sur le bassin de Shanghai, mais sur l'ensemble du pays. Et ce type de décision m'amène à penser que la croissance économique n'est plus la première des priorités du Parti communiste chinois aujourd'hui. Autre exemple, Hong Kong, là ce n'est pas lié à la politique sanitaire, mais par exemple la mise en application de la loi sur la sécurité nationale à l'été 2020 a eu pour conséquence une perte d'attractivité de Hong Kong en tant que place financière, au bénéfice par exemple de Singapour. Mais cette mise en application est toujours stricte parce que pour Pékin, la priorité aujourd'hui est la stabilité politique, sociale, sanitaire, bon, quelle que soit la qualification. Et maintenant que la Chine est deuxième puissance économique mondiale et qu'elle se réoriente vers ses fondamentaux marxistes, il faut revoir le modèle de développement économique et surtout la hiérarchie des priorités. Et la Chine est prête aujourd'hui à payer le prix de certaines de ses décisions politiques ou sanitaires.
Payer, ça veut dire combien ?
Moi, je n'ai pas d'éléments, mais apparemment beaucoup. Parce que, par exemple, si l'on revient à des questions diplomatiques, les tensions existent avec l'Union européenne, qui est un partenaire commercial majeur, mais l'économie n'est pas en mesure d'adoucir les mœurs. Le commerce n'adoucit pas les mœurs, en tout cas, pas du point de vue de Pékin.
Merci Alice Ekman d'être venue nous expliquer tout ça en direct sur Europe 1. Je renvoie à la lecture de votre livre « Dernier vol pour Pékin ». C'est paru aux éditions de l'Observatoire. On va voir maintenant avec le professeur Jean-Marc Ayoubi pourquoi la concentration de spermatozoïdes baisse chez l'homme partout dans le monde.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.